en fait. Là, j'enregistre le son de l'eau.
Ah, ouh, c'est beau ça. Moi, je trouve beaucoup ici. Mais j'ai pensé sur moi.
C'est de la radio.
Chloé, Lola, Lisana, Robert, 7 ans et demi, 7 ans, 7 ans, 8 ans et 3 demi.
Je m'appelle Louise,
Elisa,
je m'appelle Mathis,
Marius, Arsène.
Ce qui est un peu perturbant peut-être dans cette école, c'est qu'on a trois maîtres et maîtresses et quand même des façons complètement différentes de travailler.
Je m'appelle Gabin,
Anna,
Ethan.
Je m'appelle Eva,
Alexandre.
Je m'appelle Lina, j'ai 8 ans.
Je m'appelle Julia et j'ai 10 ans.
Je m'appelle Emma et j'ai 8 ans.
On a vu tout le monde.
Moi, je me sens détendue. Je suis joyeuse et de bonne humeur. J'ai besoin de confiance.
Ben moi, ma météo du jour, c'est arc-en-ciel. Je me sens surexcitée et joyeux. Et j'ai besoin de jouer.
Après le confinement lié au coronavirus, au printemps 2020, beaucoup de gens se sont dit portés par le désir de changer le monde dans lequel nous vivons. Depuis quelques années, circule l'idée que les combats sociaux, culturels et écologiques sont liés entre eux, qu'on ne peut changer notre rapport aux autres sans changer notre rapport au vivant en général. La pandémie du printemps, les masques et les gels que nous utilisons pose à nouveau cette question du projet collectif. Qu'avons-nous à vivre ensemble? Que partageons-nous? Que se passe-t-il quand nous sommes amenés à vivre ensemble, parfois sans nous dire bonjour? Les regards que nous portons sur nos semblables sont-ils doux et accueillants ou bien chargés d'inquiétude? Après l'épisode de la piscine au mois d'août 2020, j'ai poursuivi ma recherche sur le territoire et je suis allée, en janvier 2021, à la rencontre des enfants et des adultes qui fréquentent les écoles primaires de Solomiac, Saran et Montfort. Portrait d'une partie du Gers, de la Gascogne, ces échanges que j'ai enregistrés permettent aussi, je crois, de se poser la question du bonheur, du privé et du public, des rêves qui nous portent, de nos utopies. L'école est un endroit magique ou cauchemardesque. Elle rassemble à elle seule nombre des premières expériences amicales ou amoureuses. Elle nous ouvre ou nous ferme au monde, parfois définitivement. Je fais partie de ceux qui ont aimé l'école, pour ce que j'y ai découvert, pour les amitiés longues que j'y ai nouées, et les figures des instituteurs et institutrices, des enseignants et enseignantes, continue de m'accompagner à travers les années comme les gardiens d'un monde à construire ensemble. À l'école de Montfort, j'ai rencontré Elisa, qui fait de la méditation pendant les récréations, assise sur une table du préau. Et Claudie, qui officie comme gardienne du temps pendant que les autres parlent. J'ai aussi rencontré Laetitia. Sa classe était silencieuse comme une tombe et je n'ai pas pu y rentrer. Et à Lombès, j'ai aussi rencontré Manon, qui s'occupe des enfants dont personne ne veut plus. Et à Lombès encore, des institutrices qui n'ont pas voulu que je les enregistre, car elles étaient trop tristes à cause du Covid et des masques imposés aux enfants. J'ai aussi rencontré Cyriac, instituteur et directeur de l'école de Montfort. Il pratique une pédagogie différente, qui donne à l'enfant une place centrale dans l'organisation de son travail, et met l'accent sur l'expression des émotions. Passer une journée dans la classe de Cyriac est une expérience passionnante. Exercice régulier de rédaction de textes libres, météo matinale des émotions, maître du temps, les enfants sont à l'aise dans la classe de Cyriac. Attentifs à leurs désirs et aux autres, ils semblent savoir à chaque moment ce qu'il convient de faire sans que le maître les guide. Il est pourtant là, gardien bienveillant, interlocuteur pour toute demande d'aide ou suggestion, Mais ne vous y fiez pas. Cette impression de liberté est le fruit d'un long travail. Alors, si vous avez 20 minutes, voici Splash, l'école.
Je m'appelle Cyriac Bessard, je vais avoir un peu plus de 40 ans maintenant, et je travaille ici sur l'école depuis 8 ans. Alors, je suis très heureux en tout cas d'avoir pu intégrer une école qui avait ce format-là, puisque c'était une école qui était sur un petit effectif, en tout cas sur un multi-âge, et ça a été vraiment le choix que j'avais fait, c'était de trouver une école multi-âge. Et du fait de la configuration de cette école, on était de la maternelle jusqu'au CM2 sur 3 classes. Donc on avait plusieurs niveaux. Voilà, donc c'est ce qui m'a intéressé pour venir ici sur cette école.
Moi je me sens fière, pleine d'énergie. J'ai hâte ce soir parce que je vais aller faire du quad et m'occuper de mes poules. Et j'ai besoin de défoulement.
Moi je me sens de bonne humeur, motivée, en forme.
Moi, je me sens plein d'énergie, motivée. J'ai hâte mardi prochain et le 2 février pour la chambre 9. Et j'ai hâte à la récréation vu qu'on va jouer.
Pour moi, le multi-âge, c'est une des clés de ce qui va permettre de rendre la classe vivante. On va pouvoir s'appuyer sur les apports de chacun et on ne va pas être dans quelque chose de très... segmenté sur une tranche d'âge où tout le monde doit faire la même chose en même temps. On va se laisser du temps, en fait. Du coup, y a des enfants qui vont avoir du temps pour approfondir des choses sur lesquelles c'est pas tout à fait su. Et au bout d'une année scolaire, et bien, c'est pas grave si on n'a pas tout à raccrocher, puisqu'au mois de septembre, on se retrouve. Les habitudes sont déjà là, donc on perd pas de temps. Au contraire, après, ça devient presque... On n'a pas besoin à chaque fois de repartir de zéro, donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, ça m'a permis de laisser le temps à certains de s'asseoir sur des bons apprentissages, des fondamentaux, et puis à d'autres d'aller plus loin quand ils ne s'arrêtaient pas juste à l'étiquette « je suis en CM1, je fais le CM1 ».
Ok, merci. Allez, alors, vous allez reprendre dans votre plan de travail, et reprendre là où vous en étiez sur... Bon projet, on va reprendre les bandelettes.
Donc voilà, moi j'aimais bien cette idée d'avoir du multi-âge pour ces raisons-là. Et je pense que ce multi-âge-là, il va permettre aussi de créer ce qui se passe dans la vie de tous les jours finalement, parce que nous, on ne vit jamais dans une classe d'âge. Nos rencontres, elles ne se font pas forcément avec moi, tous mes amis n'ont pas 41 ans. Donc en fait, il n'y aurait que dans l'école qu'on aurait artificiellement créé un environnement où on n'est que sur une tranche d'âge. Et voilà, comme je cherche aussi à faire rentrer la vie dans l'école, je trouve que dans la classe, on est déjà comme dans une micro-société, quoi. Et donc, du coup, le multi-âge, il est de fait, ça devient une évidence quand on réfléchit de cette manière-là. Avant, en fait, il y avait beaucoup d'écoles de classe unique. Et ça a été une richesse, ces classes uniques. Et ces classes uniques, elles ont été supprimées au fur et à mesure... ça déstabilisait en fait, parce que c'est dans ces classes uniques qu'il y avait des expérimentations, il y avait des choses qui montraient que les apprentissages n'étaient pas cloisonnés comme on voulait bien nous le faire comprendre, quoi. Ces classes uniques, il en reste très très peu en France. Et donc aujourd'hui, voilà, le seul espace où encore je trouve on a du temps, c'est des cours à multiniveau. Je t'écoute, finalement.
Journée.
Tu m'as dit qu'elle se sentait comment à la fin ?
Joyeuse.
Joyeuse. Donc cette journée, comment elle a été ?
Cette journée a été bien.
Alors finalement, cette journée de Noël, on va peut-être rajouter en plus pour préciser, a été agréable.
Avec son père.
Elle se sentait... joyeuse d'avoir été avec son père, c'est ça?
Oui.
Allez, on est comme ça. Alors, nous, déjà, on travaille en autonomie.
Oui.
On a un plan de travail qui permet de choisir ce qu'on peut faire. Il y a des activités obligatoires qu'il faut faire dans toute la journée. Par exemple, le texte libre, ça, c'est obligatoire le matin. Après, on a maths et français. Et en fait, ensuite, on peut choisir les projets, tout ce qu'on peut faire. On le marque sur la feuille. On peut le faire dans la journée, dans la semaine et aussi, tous les mardis, on va en forêt. Et ça, c'est peut-être pas la chance de toutes les classes.
Ouais.
Lundi passé, deux enfants sont venus Elles étaient nostalgiques, elles avaient envie de revenir dans la classe. Elles sont en cinquième. Et je leur ai demandé sur, ben voilà, qu'est-ce qui les avait marquées. Donc elles étaient un peu nostalgiques. Parce qu'elles m'avaient dit, nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la liberté et la possibilité de choisir ce qu'on fait. Voilà. Donc là, je trouvais que ça avait bien résumé un petit peu le sens que je donnais à ce qui se faisait ici dans la classe, quoi.
Alors, on fait
un
projet sur la pierre de volcan.
Et après, on fera des étiquettes pour faire un jeu, pour savoir où est-ce qu'ils sont les choses qu'il y a dans le volcan.
Ouais, c'est ça.
J'adore la classe de Syriac parce qu'on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Mais en travaillant, tout en étant travaillant, en étant concentré.
On dessine quand on veut.
En fait, là, on a le droit de parler à volonté, tant qu'on parle pas trop fort.
Oui.
On peut choisir quel travail on peut faire.
Les maternelles aussi peuvent le faire.
Oui, mais je parle de la classe, de ceux qui travaillent, tu vois.
Clarisse,
et c'est le silence un petit peu.
Oui, il faut pas parler les gros bruits.
Et en fait, c'est Clarisse qui choisit le travail qu'il doit faire. Nous, on a des travails, on commence par celui-ci qu'on veut. En attendant que Clarisse, c'est elle qui choisit dans quel ordre on fait les travaux. Et nous, on est libre de pouvoir se lever quand on veut, de pouvoir
parler. En fait, l'idée, c'est que les enfants
faire un peu le travail,
fassent des choses dans lesquelles ils ont envie de s'investir. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, ça a été démontré d'une manière un petit peu plus scientifique, mais voilà, c'est pas nouveau, on n'a jamais eu besoin d'un manuel pour dire comment votre enfant allait marcher ou comment il allait parler. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a des apprentissages qui vont se faire parce qu'il y a un environnement qui permet des choses, parce qu'il y a un espace qui est créé pour, parce qu'une fois qu'on a un choix, on va s'engager différemment, plutôt que si c'est moi qui donne une consigne et que les enfants reprennent.
Ça nous apprend à vivre en groupe. Il y a des personnes qui préfèrent vivre tout seul, mais bon, quand on est dans la société, c'est mieux d'apprendre à vivre en groupe parce que moi je trouve que
même si t'as un problème, il y a des personnes qui
apprendre à vivre en groupe, c'est essentiel parce que quand tu seras grand, par exemple, c'est pas obligé, mais si tu fais un métier, tu vas pas le faire tout seul.
Moi, pour mon métier, je veux faire agriculteur, donc à mon avis, il va falloir vivre en groupe parce que. Voilà, et avec lui, on voulait travailler tous les deux. Et ben, du coup, il faut apprendre à vivre en groupe.
Et passer à l'âge adulte, peut-être qu'on voudra plus voir, qu'on se détestera. Bon, à mon avis, non, mais...
J'espère.
Ouais. Du coup, c'est essentiel d'apprendre à vivre en groupe pour l'âge adulte. Parce que si on ne vit pas en groupe... On se sent hyper, hyper seul.
Oui.
Et du coup, par exemple, on n'a pas d'amis très, très proches pour parler de nos chagrins, de nos secrets.
Ouais.
Et du coup, on se sent très, très triste.
Ouais, je suis d'accord.
Mais des fois, quand il n'y a personne que tu peux en parler, ça aggrave la situation. T'es trois fois plus triste.
Par exemple, j'avais remarqué que les adultes, ils pleurent pas souvent, ils n'ont pas beaucoup de tristesse. Mais en fait, c'est parce qu'ils ravalent et souvent, après, ça devient de la colère ou de la haine. Du coup, en fait, il faudra mieux tout déverser avec ses proches et que les proches aident la personne à aller mieux que de garder et d'après être hyper en colère contre tout le monde et puis que de vivre seul, chacun dans son coin.
J'essaye de leur proposer aussi d'aller explorer leurs envies pour qu'après, de toute façon, ça va susciter forcément de l'écrit, du langage oral. Il y aura des connaissances qui vont arriver et tout ça, ça va nous raccrocher aux attentes du socle et aux attentes des compétences éducation nationale. Et aujourd'hui, je vois bien quand je fais les évaluations que les enfants sont dans les attentes et on est dans les retours qui correspondent.
Je préfère les classes libres que les classes où on est forcément obligé de faire directement d'un ordre obligatoire de travail.
Moi, j'aime les deux. Après, ça dépend ce qu'on préfère, les profs sévères ou pas.
Moi, j'aime les deux.
Elle est un petit peu sévère.
Mais après, elle est gentille.
Moi, j'aime les deux.
Alors moi, ce que j'attends de l'obligatoire, c'est de lire, d'écrire et de faire des mathématiques tous les jours, par exemple. Et puis ensuite, ils vont avoir des temps où ils auront la possibilité d'aller faire leurs propres recherches. Là, par exemple, ce matin, il y a des personnes qui ont voulu travailler sur le volcan. On a tout un tas de supports qui existent dans la classe, qui a été prévu pour répondre aux sollicitations des enfants.
C'est le maître du temps. Il doit dire quand il reste 15 minutes et 5 minutes et quand c'est l'heure de la récréation. C'est lui qui dit stop et où il reste une minute pendant les temps où on peut lever la main dans les réunions, à part le conseil coopératif.
Il y en a assez.
Moi, je crois qu'il y en a
le rose, blanc.
La blanche, elle est bien.
Pareil.
Un peu épaisse.
En fait, nous, on a des responsabilités dans la classe. Il y a président. Président, c'est celui qui dit les personnes qui passent dans les réunions, qui prévient quand la réunion commence. Ensuite, il y a le responsable de parole. Il est responsable de quand les personnes lèvent la main pour poser une question, il doit écrire leur nom et les appeler. Il y a responsable de la peinture, comme nous. Il y a responsable du rangement, ils doivent s'occuper de la bibliothèque et de la cour. Il y a... et après, je m'en souviens plus. Et bah moi je suis responsable de la peinture et nous on doit vérifier si les poissons sont pas trop durs, si la peinture est bien et s'il y en a assez. Et il faut ouvrir tous les jours les pots de peinture. Voilà.
Au départ, il y a déjà des règles sur lesquelles on va poser des bases, c'est-à-dire ces activités obligatoires par exemple, ça fait partie des règles. Il y a tout ce qui est vivre ensemble après, c'est-à-dire pas de violence physique, pas de violence verbale, pas d'humiliation. Et après, toutes ces petites choses-là qui peuvent des fois contribuer à des conflits, on va essayer de les solutionner. On a des temps de regroupement collectif où on va pouvoir évoquer des soucis ou en tout cas évoquer des problèmes qui sont liés à des règles qui vont pouvoir être apportées, modifiées, affinées. L'idée, c'est qu'on les fasse vivre, ces règles. Donc si elles ne sont pas appliquées, peut-être que du coup, les enfants vont revenir en réunion pour dire « voilà, il se passe ça et on avait décidé que ». Moi, j'essaie juste de rappeler les bases des règles qu'on avait établies. Là, ce matin, c'était sur la durée de l'ordinateur. Il y en a un qui commençait à utiliser l'ordinateur sur un temps un peu long vis-à-vis des autres. Enfin, en tout cas, c'était le retour qui avait été fait tout à l'heure.
Sur l'ordinateur, on a le droit de faire de l'anglais. Mais en fait, sur l'ordinateur, on a le droit de faire plein de choses, à part d'aller sur des sites qu'on n'a pas le droit d'y aller, parce qu'en fait, c'est pas sur Arbuste.
Oui.
Et
on a le droit d'aller sur des sites qui sont mis sur Arbuste. Oui. Sinon, on est privé d'ordi pendant une semaine.
Oui, c'est dans les règles. Mais en fait, on a une feuille qui s'appelle le conseil coopératif. Et tous les jours, il y a des personnes qui s'inscrivent. Et par exemple, pour les ordinateurs, à chaque fois, il y avait plein d'élèves qui allaient tout le temps, tous les jours sur l'ordinateur. Alors cette règle, on l'a faite à cause de ça. Et du coup, les règles, on les fait avec les sujets du conseil coopératif.
Et après, ça s'installe comme ça après. On fait avec le conseil coopératif et après, c'est un peu comme le président quand il décide des trucs. C'est un peu comme ça. On décide des trucs et si ça va, on l'installe. Et si c'est trop risqué ou comme ça, on l'installe pas. On retire la proposition qui a été faite.
L'idée, c'est qu'après, on devienne comme dans un écosystème, en fait. On a des interactions qui se passent et les éléments vont s'autoréguler entre eux. Et donc, dans l'absolu, ça serait même de ne plus avoir besoin d'intervenir, quoi. Alors, on fait des balades en forêt, nous, des fois, et du coup, ça fait le lien avec ce qui se passe en forêt, quoi. Des éléments qui font qu'on est dans un système, quoi. Et donc, la classe, c'est un système vivant.
Dans une forêt, c'est bien parce qu'il y a plein de trucs à faire. C'est dehors, il y a beaucoup d'espace.
Et on a les masques.
Et voilà, et c'est organisé à chaque fin de journée. On a ce temps-là qui est dédié pour reparler de ça. Je vais intervenir si on me le demande. Je vais ne pas intervenir parce que consciemment, je sais que j'aurais plus à y gagner de ne pas intervenir. Dans le sens où ce qu'on cherche, c'est aussi cette responsabilité parce que les enfants ici peuvent être autonomes, ils peuvent être libres, mais ils doivent assumer les responsabilités de ce que ça engendre. Et donc du coup, ça va dépendre. Je vais déplacer un curseur entre soit je viens au plus près, soit je reste en observation derrière. C'est un engagement quoi aussi de proposer ça et de montrer qu'on peut avoir ses opinions, on peut donner ses choix, on peut donner ses idées, On n'a pas un rapport de domination qui fait que je ne dois pas dire quelque chose. Ou, c'est un peu ça, la construction du citoyen et l'apprentissage à la citoyenneté. Moi, je le lis comme ça, en tout cas. C'est de montrer que voilà, on devient des esprits critiques et autonomes du moment qu'on est libre de pouvoir dire ce qu'on veut, en respectant et en assumant des responsabilités qui vont avec, quoi.
Je me souviens qu'en classe de CE2, dans les années 80, ma maîtresse nous avait installé une imprimerie dans un local à l'arrière de la classe. C'était un endroit magique et j'y restais à toutes les récréations. Ma maîtresse fumait beaucoup. Je l'aimais par-dessus tout, en particulier pour cette imprimerie qu'elle nous offrait. La télé diffusait alors des spots anti-tabac. Une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée. Un jour où j'étais seule dans l'imprimerie, j'ai écrasé toutes les cigarettes d'un paquet qu'elle avait abandonné là. Je voulais la sauver. Je crois bien qu'elle ne m'en a pas voulu. Plus tard, j'ai découvert que nous devions cette presse à Célestin Freinet, instituteur et pédagogue. Mutilé de guerre à 70%, il l'avait mise en place dans sa classe pour continuer à enseigner malgré son infirmité. En 1980, alors que j'écrasais consciencieusement les cigarettes de Madame Dubasque, Freinet était encore parmi nous.
Il était une fois une fille qui habitait dans le désert.
Dans le désert.
Alors, chaud.
C'était le jour de la semaine.
Il reste 5 minutes avant d'aller en récréation.
On apprend des choses sur les émotions. On essaye de ne pas répondre avec la violence, de ne pas répondre avec des mots qui puissent blesser la personne. Quand on est en dispute, on essaye de répondre avec des mots clairs. Et on a une boîte à problèmes, on s'inscrit quand on a des problèmes. Mais c'est rien qui nous a dit, vous vous inscrivez que si vous n'arrivez pas à régler le problème tout seul.
En fait, le matin, on fait la roue des émotions, on s'exprime. Et en fait, c'est pour dire nos ressentiments, ce qu'on ressent.
Moi j'étais en train de jouer, toi tu dis mais non toi tu joues pas.
Déjà t'es jamais venu nous voir, toi tu joues tu rentres dans les jeux alors que tu sais même pas ce qui se passe.
Elles ont été expliquées les règles du jeu ?
Non. C'est pas un jeu. C'est pas un vrai jeu, j'ai inventé.
C'est pas des jeux, visiblement ça crée des tensions, ça amène des conflits.
Au début c'était juste à cause d'une chanson.
Normalement c'est compliqué votre histoire, non ?
Et même Kylian, il se met dedans alors qu'il ne sait même pas de quoi il est en fait. Déjà, il demande.
Vous aimeriez que ça se passe comment du coup ?
Qu'il demande s'ils peuvent jouer aux personnes du jeu et après on dit oui.
Bon, alors moi je te propose, vous l'inscrirez en conseil coopératif ça ?
Là tout à l'heure, dans la cour par exemple, il est venu me voir donc là j'ai essayé de voir avec eux. Après, on a tout un travail autour de l'éducation émotionnelle. Pour essayer d'amener à parler de ce qu'on ressent, de mettre des mots sur les manières qu'on pourrait avoir pour gérer nos conflits. Donc même moi, des fois, c'est pas facile. Hein. J'ai pas de clé de réponse automatique, mais on essaye à chaque fois de refixer ça sur une communication non violente pour essayer de résoudre des conflits qui viennent plutôt pas sanctionner pour sanctionner, mais essayer de réparer des choses ou en tout cas voilà, c'est pas l'idée de il s'est passé ça, alors on punit quoi. On peut être privé de certains moments, de certaines libertés, sur un temps donné, parce qu'on n'a pas respecté une règle, par contre. Mais ça a été aussi rappelé collectivement.
On vous va comme ça ? Ok, Ernest ?
Ok.
Allez.
C'est pas facile d'être toujours à contre-courant non plus, et de voir un petit peu se sentir seul par moment. On se sent pas forcément trop épaulé, quoi. Après, voilà, l'inspecteur est venu au mois de décembre. Et voilà, il a vu que ça fonctionnait très bien, qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Et que pour lui, voilà, tout ce qui était le domaine 3 et 2 du socle, il m'a dit que c'était OK, quoi. Il n'y avait pas de souci. Tout ce que je faisais, ça cochait toutes les cases, quoi. Au contraire. Donc voilà, c'est plutôt favorable à montrer que c'est pas non plus... on ne fait pas rien dans la classe, on fait pas... Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu atypique et du coup, ça peut questionner. Là, tu mets deux fois le N. Et tu mets un point d'interrogation, c'est une question.
Nadia voulait faire une promenade sur Nina. Nina galope, mais soudain, elle se cabre. Elle voit Margot le léopard et elle tombe. À suivre.
Le confinement, du coup, on utilisait déjà des choses sur lesquelles ça a été très vite. Parce que Arbuste existait déjà. Donc ils ont eu rapidement des habitudes comme on les avait en classe, en fait. Alors après, voilà, du coup... chaque semaine, voilà, je leur disais de garder un petit peu les activités obligatoires et puis de profiter, quoi. De profiter d'être avec leurs parents, de profiter de ces moments-là, voilà. De vivre des temps avec eux, de nous raconter, de produire des textes qui pourraient peut-être nous faire partager ensemble avec ça. Le plus gros choc, ça a été le port du masque. Alors vraiment, j'ai été très troublé quand je suis arrivé le matin et que je les ai vus en masque. Vraiment, ça a été une image très violente. Pendant un moment, j'arrivais pas à parler. Ouais. On était bâillonnés, quoi. Et faire ça à des enfants, hein. ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu faire. Puis ça a été aussi au retour du confinement, aussi au mois de mai, là, où en fait, on m'a privé de tout ce que je faisais, en fait, dans la classe. En demandant à ce que les enfants soient espacés de temps de mètres, ils restaient assis. Enfin, c'était un truc qui allait complètement à l'encontre. Ça avait supprimé tout le sens que j'avais à faire mon travail dans la classe, quoi. J'attends un élan collectif, quoi, qu'on me dise, mais arrêtez vos absurdités, quoi. Comme si on était infantilisés, quoi. Et donc, quand je dois infantiliser les enfants de la classe, je trouve que ça va pas. Parce que c'est tout à fait à l'opposé de ce que j'attends de l'école, quoi. C'est qu'on les rende responsables et pas infantilisés, quoi.
En quittant la classe de Cyriaque, je suis partagée entre l'enthousiasme de cette journée, qui me donnerait presque envie de retourner en enfance, et son interrogation. Cyriaque fabrique dans sa classe un commun, un vivre ensemble. Il permet à chacun de ses élèves de s'emparer de son quotidien, de le modifier s'il ne lui convient pas. Ces petits citoyens ont la main sur leur vie à l'école. Ils peuvent faire un dessin plutôt que du bricolage, écrire plutôt et lire ensuite. L'essentiel, c'est qu'ils écrivent, qu'ils lisent et qu'ils comptent. Je ressens fortement la solitude de ce travail et la détermination qu'il y a à le mener. Presque un sacerdoce, une mission.
J'aimerais bien qu'on recrée du lien ensemble, que le lien ne se fasse pas à travers les médias et les mainstream, parce que ça, c'est un truc, ça m'insupporte. J'aimerais bien rencontrer des gens en dehors de Super U. J'aimerais bien pouvoir reparler à des gens comme ça par hasard, faire des rencontres qui ne sont pas des hasards, ou de se retrouver pour de vrai, quoi. Sur l'école, c'est compliqué. Je ne suis pas super optimiste quand même. Parce que je vois bien que les collègues qui essayaient aussi d'aller un petit peu dans des fonctionnements comme j'ai, il y en a qui sont fait casser. Voilà. Donc là, dans l'innovation pédagogique, je ne suis pas super optimiste. Voilà.
Après, il faut, c'est bien de savoir régler les problèmes, mais il faut savoir les régler, il faut savoir vivre en paix avec les autres, en harmonie. Mais quand même, il faut savoir compter pour avoir un bon boulot. Donc, vaut mieux avoir les deux comme ça. On vit en paix, en même temps de savoir compter et travailler.
Ouais. Splash, épisode 2, l'école. Une pièce sonore d'Hélène Maton, réalisée par Agnès Maton. Texte Arnaud Bertina et Hélène Maton. Une production de La Langue Écarlate, avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la région Occitanie et du pays Porte de Gascogne, sans le soutien de la Société civile des auteurs multimédia. Tous nos remerciements aux écoles de Solomiac, Saran et Montfort, et à Lalaé de Lombès, ainsi qu'à tous les participants.